18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
On l'attendait avec impatience, hein. Revoilà 100% Aiglon.
Et oui, ça nous fait sommes plaisir. Là, deuxième semaine après la reprise du championnat la semaine dernière. Daria, effectivement, et bien, ça va bien pour les Aiglons. Bienvenue en 100% Aiglon, votre dose hebdomadaire 100% OGC Nice sur France Bleu Azur. Le gym qui vient de lancer sa saison ce week-end en Normandie. Premier point pour l'escouade de Patrick Vieira, champion du monde 98. À l'origine d'un coaching gagnant samedi soir contre Caen, un changement à l'heure de jeu qui a permis aux Niçois d'égaliser par Ganago. La tactique Vieira, on va en parler justement dans cette émission avec vos appels, vos réactions au 04 93 82 03 04. Gaël vous accueille au standard ce soir pour débattre de l'actu du gym. Deux confrères à mes côtés, William Imbercé, journaliste à Nice Matin. Salut William.
Salut JB.
Avec nous également en ligne, Anthony Clément du journal L'Équipe. Bonsoir Anthony.
Bonsoir à tous.
Allez, nous passerons un coup de fil aussi en fin d'émission à Rémi Chevreau, notre confrère du Bien Public, pour parler de Dijon, futur adversaire du gym en Ligue 1. On retrouvera également Laurent Barra en deuxième partie d'émission pour son tacle du soir, mais d'abord le best-of de Caen-Nice. Et il s'en est passé des choses sur la pelouse de Dornano, c'était samedi soir sur France Bleu Azur.
Les joueurs de Patrick Vieira qui doivent absolument prendre des points, enfin lancer leur saison. Saint-Maximin pour le centre à suivre, pour Pires, mais la frappe. Oh, l'arrêt de Brice Samba qui relâche le ballon mais qui va le récupérer devant Danilo. Le centre de Gilbert, attention à la tête de Chokounte. Les Canets réclament auprès de Monsieur Wattelier la main. Je pense que Monsieur Wattelier a été alerté par ses assistants dans le quart. Pas de pénalty, corner. Et ça le fasse de la droite vers la gauche en allant à la cage de Cardi. C'est bien frappé, attention à la tête de Paul Bayes, c'est le but. Le but de Paul Bayes, il s'est refusé. Il va centrer pied gauche, Bamou la tête, attention Paul Bayes, le poteau. Et c'est stoppé par Johan Cardinal sur sa ligne de but, encore une fois Paul Bayes. L'ancien capitaine du gym a failli encore faire mal à ses anciens coéquipiers. Long ballon devant vers Chokounte à la lutte avec Christophe Ferrel. Duel de Niçois. Attention Chokounte qui est en train de faire la réparation. Il y aura un pénalty. Même si l'arbitre fait appel pour confirmer sa décision à l'arbitrage vidéo. Ah, il n'y a rien. Non, il n'y a pas pénalty. Que dit l'arbitre? Il est encore le doigt sur l'oreillette. Et il y aura donc pénalty. Donc Yacine Bamou qui va défier Johan Cardinal à la 51e minute de jeu. Bamou qui va s'élancer et c'est marqué. Ça fait 1-0. Boskagli lui va centrer pour Ganago. La tête de Ganago. Oh, l'égalisation! L'égalisation niçoise à 9 minutes de la fin de ce match sur un caviar d'Olivier Boskagli. On dira coaching gagnant de la part de Patrick Vieira.
Il fait une bonne rentrée en plus, il est remuant.
C'est fini, match nul entre Caen et Nice, un but partout.
Il y a encore beaucoup de travail, mais sur le plan moral, c'est important de ne pas perdre ce soir.
France Bleu Azur, 100% Aiglon, le débrief.
Voilà, on a tout eu dans ce match, William. De l'inquiétude après la première période niçoise, des retrouvailles avec Paul Bayes également, qui a bien failli jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers, des quiproquos avec l'assistance vidéo à l'arbitrage, la fameuse VAR, et puis un coup de poker de Patrick Vieira récompensé.
Ouais, voilà, c'était... On est passé un peu par toutes les émotions.
Exactement, ouais.
Parce que c'est vrai qu'au bout d'une heure de jeu, on commençait vraiment à s'inquiéter pour ce gym-là. C'était même, on le disait, en tribune de presse, pire que contre Reims, bien plus inquiétant. Et au final, voilà, il y a eu ce coaching de Patrick Vieira et une meilleure réaction aussi des joueurs sur le terrain. Il n'y a pas que le coaching qui a tout changé, mais Ganago a fait une super rentrée et est récompensé par ce but.
On va évidemment parler de tout cela, mais d'abord, Anthony, juste un petit sentiment global sur ce match. Voilà, on le disait à l'instant, on a un petit peu eu le droit à tout.
Oui, on a eu le droit à tout et surtout à l'ennui en première période, parce que le gym, à part l'occasion de Pierre Lesmélou à la quatrième minute, il n'y avait quand même pas grand chose à se mettre sous la dent. Cette équipe paraissait bien puissante, et même dans l'agressivité, dans l'engagement, il n'y avait pas grand chose. Il y avait beaucoup aussi de fautes techniques au milieu de terrain. On a vu des pertes de balles qui ressemblent pas quand même au gym, qui a plutôt l'habitude de bien posséder de ballon. Donc c'était très inquiétant et on peut espérer que ce qui s'est passé en seconde période lance un peu une nouvelle dynamique. Enfin, il vaut mieux que ça se passe comme ça que dans l'autre sens.
C'est vrai qu'on s'est regardé, on a discuté ensemble, William, à la mi-temps. On était très inquiets pour cet OGC Nice-là, vu la première période où le gym n'a pas montré grand-chose, même rien du tout.
Ouais, mais Anthony vient très bien de le résumer. C'est surtout au niveau de la possession, quoi. C'était ce déchet technique permanent. Je pense à, pas spécialement à Cyprien, parce que voilà, c'est considéré comme le joueur qui peut être la plaque tournante dans cette équipe. Et là, il avait un déchet incroyable dans le jeu court. Et du coup, avec le manque d'appui offensif en prime, l'OGC Nice n'a pu que subir en première période.
Adèle, bonsoir.
Oui, bonsoir tout le monde.
Vous restez avec nous, on va vous écouter avec Anthony Clément de l'équipe et William Mercier de Nice ce matin. On va juste marquer la première pause de cette émission et vous inviter à faire comme Adèle, hein. Nous appeler 04 93 82 03 04 et également réagir sur la page Facebook de France Bleu Azur 100% Aiglon. Ça revient dans une minute.
Les actus, les polémiques, les analyses, 18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
France Bleu. Chaque matin, c'est tout le département qui s'éveille avec France Bleu Azur. Toute l'info d'ici, toutes les nouvelles du monde, une seule radio vous donne toutes les infos en direct au petit déjeuner. Météo, route, sport, vos commentaires sur l'actu, des invités en direct, vos loisirs, l'humour, les buzz, la musique. À demain 5h, mais que ça ne vous empêche pas de dormir d'ici là.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Avec William Mercier de Nice ce matin, Anthony Clément de l'équipe et donc Adèle qui nous appelle depuis Nice. Adèle, premier point pris par les Aiglons en Normandie, un but partout. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? La partie inquiétante, j'ai envie de dire, la première période, ou le coup de coaching, coup de poker, comme dit Johan Cardinal, gagnant de Patrick Vieira?
Écoutez, on a mangé du caviar depuis trois saisons maintenant. Quand on voit effectivement après la première période, on peut effectivement être inquiet. C'est ce qui est le plus marquant parce que je ne sais pas qui disait précédemment, quand on voit Cyprien avec tout le talent qu'il a réalisé autant d'approximations sur le plan technique, on était très inquiet. Et le coaching gagnant, alors c'est vrai qu'on n'était pas habitué avec Favre sur un changement aussi radical. Trois passés à trois centraux, décaler Saint-Maximin, effectivement ça a marché, mais je pense que si la tête de Ganago passe 2 cm à côté du poteau, on n'aurait peut-être pas le même discours aujourd'hui. Donc l'équipe est toujours en rodage et j'aurais tendance à dire on laisse la chance au produit, on attend de voir et on reste vigilant.
Adèle, reste avec nous. Anthony, je vais te faire réagir au propos de notre auditeur. C'est vrai qu'en tout cas, oui, effectivement, si Ganago est qu'à quelques centimètres, il n'y a pas la tête, mais on a vu, Anthony, que dès que Patrick Vieira a fait son changement à l'heure de jeu, le gym s'est quand même un petit peu métamorphosé. C'était logique, cette égalisation.
Oui, c'est passé quelque chose vraiment à l'heure de jeu avec cette réorganisation et le but aussi, je pense, en lui-même, à réveiller l'équipe. Enfin, le fait d'être mené au score, il fallait vraiment se réveiller parce que ça, une défaite inaugurale contre Reims, une défaite à Caen, ça fait quand même un très mauvais départ. Je suis d'accord après avec Adèle quand il dit que c'est inquiétant, mais il faut aussi prendre en compte que le mercato est pas fini. C'est une équipe qui joue sans numéro 9 parce qu'on attendait que Maoulida soit installé en pointe, mais visiblement ça lui va pas. Donc ils ont alterné avec Saint-Maximin. Sans que ce soit très convaincant, et c'est au moment où Nice aussi a joué avec un vrai numéro 9 et avec Maoulida et Saint-Maximin sur les côtés qui est leur poste préférentiel que ça s'est mieux passé. Donc il y a aussi de vraies carences d'effectifs à régler. On peut espérer que le mercato puisse amener des solutions à ce niveau-là et que le gym va pouvoir se lancer avec d'autres arguments, mais c'est sûr que si on regarde les forces en présence et l'effectif présent là à Caen samedi, ça n'incite pas à un optimisme débordant malgré la belle réaction qu'il faut aussi mettre en œuvre, parce que c'est une équipe jeune et je pense que le fait d'être revenu et de c'est pas comme une victoire, mais ça met quand même un élan à confirmer, mais ça va quand même faire du bien à tout le monde dans les têtes.
Ce qui est intéressant aussi dans l'analyse d'Adèle, William, c'est ce qu'il dit, c'est vrai que le produit est jeune en quelque sorte, et Anthony vient de le rappeler, cette équipe est encore très très jeune, la moitié des joueurs ne jouaient pas ensemble avant.
Le produit est jeune et l'entraîneur est neuf. Voilà, c'est un projet qui s'est relancé le 2 juillet dernier avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle méthode, avec de nouvelles séances, avec de nouveaux critères de jeu. On peut pas penser qu'au bout d'un mois et demi, l'équipe aurait pu être prête et enchaîner, ultra dominer ses adversaires dès le début du championnat. Donc le produit en lui-même, bien sûr qu'il est jeune, et les carences d'effectifs existent aussi. Un attaquant axial, c'est quand même primordial pour une équipe qui joue la possession, pour avoir ce point d'ancrage, ce point de fixation, comme l'était Mario Balotelli. Donc c'est sûr que passer de Balotelli à rien... c'est quand même un monde.
Merci Adèle de votre appel à Nice. On restera à Nice un instant avec Renaud, mais je voudrais juste qu'on écoute Johan Cardinal, le gardien du gym, qui a salué quand même le coaching de son entraîneur. Et Johan, il parle avec ses mots toujours. Il parle même d'un coup de poker, on l'écoute.
Contre Rennes, ça, il a un peu fait la même chose, c'est des coups de poker, ça veut dire que le coach veut marquer, il veut absolument qu'on joue de l'avant, il veut absolument qu'on égalise, et voilà, il faut féliciter le coach aujourd'hui parce que son coaching a été payant. La semaine d'entraînement, elle est faite pour ça, pour travailler, pour essayer plusieurs schémas. Et aujourd'hui, là, on a essayé un schéma bizarre, mais il a fonctionné.
Un schéma bizarre. Alors, il y a la belle réaction de Cardinal. Voilà, Anthony Clément, on sent que ce coach niçois, le nouveau Patrick Vieira, il est apprécié par ses joueurs.
Oui, c'est un peu l'état de grâce qui est propre à chaque entraîneur, mais il y a quelque chose aussi qu'on veut percevoir, c'est que on observe des limites. Non seulement il y a des lacunes techniques, on en a déjà parlé, mais on perçoit aussi ce que cette équipe veut faire. Et on sent aussi qu'ils travaillent à l'entraînement. On arrive à voir le samedi ce qu'ils essayent de travailler. Alors c'est pas encore parfait, mais il y a quand même des idées. Enfin, même si peut-être que les ambitions sont encore un peu hautes au regard des moyens qu'ils ont, on sent que cette équipe, elle veut avoir le ballon, elle veut jouer au foot avec des passes courtes. Alors elle le fait pas encore très bien, mais il y a quand même ça qui est perspective. Et ça, c'est rassurant. Enfin, qu'on puisse déjà sentir quelques idées de Vieira. Et après, comme le disait William tout à l'heure, je pense que personne ne s'attendait à ce que les Niçois marchent sur l'eau dès mois d'août, surtout avec ces problèmes de mercato. C'est ça qui peut aussi inviter à être un petit peu optimiste, c'est qu'il y a ces idées et les joueurs prennent visiblement du plaisir. On parlait des joueurs qui pouvaient prendre du plaisir avec Lucien Favre, j'ai l'impression qu'ils en prennent aussi dans les séances de Patrick Vieira, et ces changements tactiques les stimulent aussi. J'ai l'impression de passer de schémas tactiques différents au cours du match, ça peut être intéressant pour les joueurs, ouais. Et ça leur permet de se réveiller au cours de la partie, et j'ai l'impression qu'ils rentrent vraiment dans ce jeu tactique et qu'il y a un vrai appétit pour cet aspect tactique.
En tout cas, c'est un soutien appréciable, et on a l'impression même que les joueurs sont demandeurs. Écoutez la réaction d'Olivier Boscagli, voilà, quand il nous parle de ce changement tactique à l'heure de jeu.
Il sait ce qui se passe sur le terrain, il a vu qu'on avait peut-être un peu plus de mal à trouver des espaces et à trouver des décalages. C'est important aussi que le coach il fasse des bons changements pour nous. Après, les joueurs, ils ont fait le taf. Les entrants, que ce soit JV, Malan ou Ganago, ils ont fait les trois une bonne entrée, donc c'est important pour nous. On sait qu'on joue à 18, hein, c'est important que tout le monde soit prêt, et on l'a bien vu ce soir.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
Renaud nous appelle depuis Nice dans 100% Aiglon. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir William.
Bonsoir.
Avec Anthony Clément également, notre confrère de l'équipe qui nous écoute. Renaud, voilà, avoir votre sentiment sur ce match nul, le premier point remporté par l'équipe de Patrick Vieira.
Ben moi, je suis un peu du même avis que vous. J'étais vraiment très très inquiet à la fin de la première mi-temps. On n'arrivait vraiment pas à aligner trois passes. Encore une fois, ça avait été très compliqué. Et puis il y a quand même ce changement de tactique du coach. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir. Moi, ce qui m'a surtout vraiment frappé, c'est que les joueurs ont vraiment changé d'état d'esprit. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le changement, mais est-ce que ça a vraiment été le tournant? Je sais pas, mais on a, contre Reims, on n'avait pas eu de réaction. Et là, samedi soir, on a eu une belle réaction. On a vu que les joueurs avaient envie d'aller chercher un résultat. Ils se sont accrochés. La tête de Ganago, d'accord, s'il y a passé un centimètre à côté, je suis d'accord avec Adèle, mais il met quand même une super tête, parce que
le centre, c'est un régal, c'est un caramel, hein, le centre de Boscagli.
Mais vraiment, la tête de Ganago est quand même vraiment très 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 belle aussi. Donc voilà, j'espère que ça va leur prouver, leur donner confiance, parce que c'est un groupe qui est vraiment très jeune, qui hormis Dante, ben pour l'instant, ça manque encore de leader. On sait que le coach, il compte beaucoup sur Cyprien, mais pour l'instant, il a du mal un peu à prendre ses marques au milieu de terrain. Pour moi, Cyprien, c'est vrai que peut-être, il serait peut-être un peu mieux juste devant la défense, parce qu'on a eu énormément de mal à ressortir des ballons. C'est beaucoup moins propre que les deux dernières années. On a énormément de mal à mettre de la fluidité dans le jeu. Et c'est vrai que peut-être le repositionnement de Lesmelou pourra peut-être apporter aussi un petit peu plus de technique dans le trio qu'il veut mettre en place sur le terrain. Et parce que Saint-Maximin a énormément décroché. On a vu vraiment venir au milieu de terrain récupérer des ballons. Ouais. Et donc forcément, vous le savez très bien autant que moi, que s'il descend, c'est que devant, il n'est plus là. Donc c'est vrai qu'il y a un ajustement à faire, mais c'est intéressant parce que le groupe est très jeune. Et on sent vraiment que le coach a des idées et surtout, il est très réactif. Et ça, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude. C'est vraiment très, très bien. C'est positif. Et les joueurs et tous les jeunes savent qu'ils vont avoir leur chance. Ils savent la saisir. Donc,
on l'a vu, ouais, notamment avec l'entrée de Makengo, de Malan aussi et de Ganago, le buteur. Anthony Clément, je me tourne à nouveau vers toi, Anthony, sur ce que nous disait un petit peu Renaud, notamment sur Willian Cyprien. C'est vrai qu'on aimerait voir Willian prendre un peu plus de place dans cette équipe niçoise, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus série. C'est lui désormais le taulier du milieu de terrain et il a du mal encore à prendre ses responsabilités aujourd'hui.
Oui, c'est sûr que dans le contexte actuel, Yann Cyprien, c'est le plus ancien au milieu, c'est celui aussi qui incarne le plus ce jeu niçois qu'on avait vu lors de la fameuse saison terminée à la troisième place. On attend beaucoup de choses de lui. La saison dernière, c'était celle du retour après sa grave blessure. Là, il doit vraiment apporter quelque chose. Il a eu du mal en première période. Après, j'ai trouvé qu'il avait quand même su réagir et avec un peu moins de déchets. On l'a vu notamment avec une frappe. Mais il est évident qu'il est difficile d'imaginer ce gym-là performer sans pouvoir compter sur un très bon Yann Cyprien, parce que il y a peu de profils comme lui, et surtout on a vu ce dont il était capable, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui au milieu. En attendant, effectivement, on peut aussi attendre le retour de Pierre Lasmelou dans l'entrejeu, parce que je trouve l'année dernière, des souvenirs que j'ai de l'année dernière, ouais, c'était de là où il avait été plus convaincant plutôt que qu'Ailier. Donc ça peut apporter quelque chose. Et surtout, ça veut dire que si Pierre Lasmelou ne joue pas Ailier, c'est que Alain Maximin et Maoulida évolueront à ce poste-là, et ça a l'air aussi de mieux leur convenir. Donc c'est tout un puzzle qui doit se mettre en place, quoi.
William?
Moi, par rapport à Willan, je voudrais rappeler quand même que c'était une grave blessure et que donc cet été, il a vécu une vraie préparation physique collective pour la première fois depuis 2 ans.
Et oui. Donc, faut la digérer aussi.
Voilà. Il y a ce côté-là aussi qu'il faut pas occulter. Et puis, dans l'animation désirée par Patrick Vieira, Willan Cyprien a aussi un nouveau rôle. Il joue beaucoup plus haut. Patrick Vieira veut le voir présent dans les 20-25 derniers mètres, un peu l'homme clé de cette dernière ligne à franchir par sa capacité à donner de bons ballons et surtout sa capacité à frapper, une bonne qualité de frappe qui peut amener du danger dans ces derniers mètres. Et c'est vrai que ça, il faut s'y acclimater. Quand derrière lui, il y a du mal à faire remonter le ballon, il est obligé de décrocher. Donc voilà, il n'y a pas encore tout un système qui arrive, une animation qui arrive à se créer aussi autour de lui, et lui a du mal un peu à prendre ses responsabilités. Mais à terme, c'est ce que désire Patrick Vieira.
Renaud, merci de ton appel, ta fidélité à 100% Aiglon. Ça va se poursuivre évidemment jusqu'à 19h. Anthony Clément, encore une question avec toi avant de te laisser tranquille pour ce soir. On restera évidemment avec William Imbercé sur France Bleu Azur. Au vu de la réaction de la seconde période des Aiglons, Anthony, de ce schéma tactique par rapport au premier match, est-ce qu'on peut dire que oui, les Niçois sont sur une bonne trajectoire en tout cas? Il y a que 2 journées de match, mais est-ce qu'ils sont sur le bon chemin d'après toi?
Bah, la lecture du score et du scénario du match de Caen incite à espérer quelque chose. Après, il y a eu aussi les limites qu'on a vues, et sans changement notable d'effectif, comme on parlait de l'absence du numéro 9, j'ai bien peur que Nice traîne ses séquelles tant qu'il n'y ait pas de nouveaux joueurs. Et alors, bien sûr, on peut attendre que, comme le disait Will, que Cyprien se fasse à son nouveau poste, que d'autres joueurs s'adaptent, que la préparation soit digérée, ça c'est inévitable, mais on peut aussi craindre qu'il y ait des lacunes d'effectifs, même avec toutes les innovations tactiques du monde de Patrick Vieira, qui peuvent pas être palliées parce qu'on voit que l'effectif a des faiblesses. Et le fait même aussi qu'on parle beaucoup des réactions et du coaching de Patrick Vieira, ça montre que avant ça a été difficile. Donc ça serait bien d'avoir un match où Patrick Vieira n'a pas besoin de tout changer à l'heure de jeu. Ça voudrait dire que ça s'est plutôt bien passé avant, et ça pour l'instant on attend encore.
Bon, on verra peut-être Dijon, ce sera le cas peut-être pour la deuxième à la maison. Merci en tout cas Anthony de ta participation, Anthony Clément de l'équipe que l'on lit dans le grand quotidien sportif national et que l'on voit aussi à la télévision. D'ailleurs, ouais. Anthony, nous étions ensemble à Caen, et il passe pas inaperçu dans les rues de Caen.
Il est reconnu.
Voilà. Merci Anthony.
Mais toi non plus.
c'est vrai. Allez, bonne soirée, et 100% Aiglon va se poursuivre. Courte pause en musique dans un instant. À bientôt.
Salut.
France Bleu Azur. Oh,
Flames, Sia avec David Guetta sur France Bleu Azur, 18h28, 100% Aiglon, on revient dans un instant. France
Bleu. Pour éviter les bouchons, les radars et faire la route de bonne humeur, écoutez France Bleu Azur sur la 202 ou sur la route du littoral, sur le 103.8. France Bleu Azur vous donne toutes les infos routes et transports en commun en temps réel.
On est bien ensemble.
Suivez les émissions, retrouvez les infos sur les invités. Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe chez vous, c'est France Bleu Azur en continu sur le web. Sur francebleu.fr, Facebook et Twitter. Téléchargez l'appli France Bleu pour recevoir les alertes et écouter la radio en direct.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Avec William Imbercier, notre confrère de ce matin qu'on va retrouver dans un instant. Vous êtes aussi présents sur la page Facebook de France Bleu Azur. Il y a Dominique, Didier, Rodolphe, Albert, Artie également qui est là, Daniel, Virginie. Bref, n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir également au 04 93 82 03 04. On va parler dans un instant du gardien Johan Cardinal qui est l'un des premiers choix forts de Patrick Vieira depuis son arrivée. C'est lui qui a repris le costume de numéro 1. En tout cas pour l'instant, est-ce que voilà, c'est fini? Est-ce que Cardi est redevenu le numéro 1? On va se poser la question, on vous attend pour réagir. Et puis on parlera aussi également du mercato puisqu'il est encore en cours. Et puis en fin d'émission, on parlera de Dijon, prochaine adversaire de l'OGC Nice. 18h30 sur France Bleu Azur. L'essentiel de l'actualité de ce lundi soir avec Justine Leclerc et un radar vandalisé dans la vallée de la Roya.
Et oui, l'appareil mobile installé depuis une quinzaine de jours a été recouvert de peinture. Il ne flash plus. Une enquête a été ouverte pour retrouver le ou les vandales. Un drame familial tôt ce matin à Dampierre dans le Jura. Une mère est soupçonnée d'avoir poignardé mortellement sa fille de 11 ans. Elle a tenté également de se mutiler. Elle a été hospitalisée, précision dans le journal de 19h. Les secours mobilisés dans la matinée sur l'une des plages de Mandelieu-la-Napoule. Un homme de 84 ans a fait un malaise cardiaque dans l'eau. L'actrice italienne Asia Argento, l'une des premières à avoir accusé le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, notamment au Festival de Cannes, est à son tour soupçonnée. Elle aurait abusé d'un jeune acteur en 2013 à qui elle aurait versé de l'argent pour étouffer l'affaire, une information du journal américain The New York Times. Les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir demain, l'une des fêtes religieuses les plus importantes. La tradition veut que l'on sacrifie un mouton, deux abattoirs provisoires sont mis en place dans les Alpes-Maritimes à Conte et Escragnole. La fin d'une époque à Nice, la mercerie de la rue Blockhaus ferme le mois prochain. L'enseigne ouverte en 1919 attire des clients de toute la France, voire du monde entier. On revient sur l'histoire de cette mercerie demain matin sur France Bleu Azur.
Merci Justine, prochain rendez-vous avec l'info, ça sera France Bleu soir à 19h. Mais d'abord, un petit détour par le ciel. La météo, à quoi faut-il s'attendre, Daria Bonin?
Pour demain, Jean-Baptiste, peu de changements du côté du ciel avec une poursuite du temps chaud et bien ensoleillé, notamment près du bord de mer. En montagne, après une belle matinée, le ciel va devenir un peu plus menaçant l'après-midi. Des averses orageuses risquent de se déclencher. Des débordements nuageux sont également possibles sur les zones littorales en toute seconde partie d'après-midi. Les températures restent stationnaires, toujours largement supérieures au normal de saison. 24 à 25 degrés à Nice, Menton. 20 degrés à Cannes, 15 à 18 sur le moyen pays et 12 à 2000 mètres d'altitude. L'après-midi, le thermomètre indiquera jusque 31 à 33 degrés sur les plages et dans les vallées proches, 34 degrés à Carros, 29 dans les hautes vallées comme à Tende et Saint-Martin-Vésubie et 19 à Isola 2000.
On fait la route ensemble sur France Bleu à 04 93 82 03 04. Vous êtes nos patrouilleurs. Vous nous appelez si vous constatez des difficultés sur la route dans les Alpes-Maritimes. Sur l'autoroute A8, un ralentissement à vous signaler à 18h32 en direction de l'Italie. Vous êtes ralenti entre les sorties Cagnes-sur-Mer et promenade Nice Promenade des Anglais. Ça coince également un tout petit peu. En tout cas, il y a un véhicule arrêté, nous signale-t-on, juste après la sortie Nice-Quartier Nord. Et puis, dans l'autre sens, faites attention avec un défaut de chaussée sur l'axe Italie-Aix-en-Provence. On est là juste après la sortie Monaco en direction de Nice-Nord. Donc soyez là aussi vigilants et si vous constatez une trop difficulté, vous nous appelez.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Avec William Amersé, notre confrère de Nice matin, et on vous attend au 04 93 82 03 04, sur Twitter également, sur la page Facebook de France Bleu Azur, où vous nous suivez également en vidéo, on fait un petit coucou. William, je le disais juste avant le rappel de l'info, Johan Cardinal, donc qui a enchaîné une deuxième titularisation de rang, choix fort de Patrick Vieira, qui a fait son match contre Caen. Il a été précieux, il a permis à Nice de rester dans le coup, même si on l'a pas encore abordé, on l'a entendu dans le best-of, on en reparlera peut-être dans un instant. L'arbitrage vidéo a été un peu surprenant samedi, mais en tout cas Cardi a fait ses arrêts.
Ouais, surtout en première période, parce que c'était vraiment un calvaire de la 5e minute jusqu'à la 45e, parce que dans les 5 premières, il y a eu cette occasion pour le Smelou, mais après, il n'y avait plus rien, et donc si Johan ne réalisait pas quelques arrêts, c'était cuit. Et notamment cette tête de Bayes, il le dit lui-même, hein, il ne sait pas par quel miracle la montre de l'arbitre n'a pas sonné.
Ouais, ce qu'il disait Cardi. Ouais.
Voilà. Mais il faut un petit brin de réussite, qu'elle lui sourit à lui, c'est bien aussi pour la confiance. On lui reprochait peut-être le but contre Reims. Là, on peut lui filer un point. Voilà. Il y a un point qui est pour lui. C'est bien. Voilà. C'est pour la confiance, c'est important parce que Vieira a peut-être fait son choix pour l'année.
Et puis la petite indiscrétion aussi qu'on peut donner à nos auditeurs, parce qu'on a discuté avec Paul Bayes, hein, l'ancien Niçois en zone mixte, il était aussi content finalement que ce soit Cardi qui a arrêté son but. Lucas nous appelle depuis Nice, bonsoir Lucas.
Bonsoir à tous.
Bienvenue en 100% Aiglon. Lucas voulait débattre avec nous de Johan Cardinal. Est-ce que Cardi a repris ce costume de numéro 1 selon vous?
De toute façon, pour moi, ça a toujours été le meilleur gardien de cette équipe par rapport à Benitez, parce que même si Benitez, je pense, c'est un bon gardien, je trouve que Cardinal déjà est meilleur sur sa ligne, et puis c'est un gardien qui a fait ses preuves durant l'année où on a terminé troisième. Donc pour moi, il doit être numéro un et Benitez numéro deux. Donc ça ne change pas, mais je suis très content qu'il ait pu faire un bon match, là, pu le remettre en confiance et maintenant Patrick Vieira va sûrement lui faire confiance pendant un bon bout de temps.
Oui, parce que Lucas, il y a un avantage aussi pour Johan Cardinal, c'est qu'il aime le jouer au pied, il aime jouer Johan Cardinal, il aime jouer au ballon et c'est ce que veut l'entraîneur.
Oui, c'est sûr. Et puis moi, je me rappelle un petit peu les matchs contre le Paris Saint-Germain, notamment quand on avait gagné les relances de Johan Cardinal à 2 mètres, quand Cavani pressait ou encore, on se dit, ça c'est vrai par contre, quand Cardinal joue au pied très, très bas, on s'en retient un peu notre souffle, mais c'est toujours fait avec une espèce de, comment dire, cette espèce d'assurance. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui joue beaucoup court et donc ça c'est très positif et de toute façon pour gagner les matchs, pour partir de derrière, on peut pas dégager devant, sinon on n'arrivera jamais à rien.
William, c'est un vrai avantage ça pour Johan Cardinal, à la différence de Benitez, le fait que ce soit un gardien joueur.
C'est clair que dans la confrontation des deux profils de gardien de but, et s'il y a bien un critère où il n'y a pas photo entre les deux, c'est bien le jeu au pied. Parce que Johan est très bon au pied. Des fois il a vraiment cette assurance qu'il peut lui jouer des tours, mais on l'a vu pendant la préparation contre Charleroi, il y a une action qui part d'une relance de Johan Cardinal pour Dante qui provoque en 4 passes une superbe action de but. Donc voilà, ça fait la différence. Après, par rapport à Benitez, quand on regarde la saison de la 3e place où Johan avait été très très bon et qu'on regarde après le début de saison où il a fait des boulettes, c'était logique de changer. Est-ce que Benitez a réalisé de très très gros matchs comme quand Johan Cardinal avait réalisé lors de la 3e place? Ne pense pas. Donc, il y a eu un choix de fait pendant la préparation, un peu par surprise.
Parce que c'est quand même Benitez qui a terminé les matchs de préparation.
Nos informations, c'était que de base, c'était Benitez qui devait garder le statut numéro 1. La préparation a changé les choses. Puis est-ce que Benitez n'a pas convaincu Patrick Vieira? En tout cas, voilà, Johan a sa chance et c'est à lui de la saisir maintenant. Il avait été propulsé au premier plan très vite, il est redescendu très vite aussi. Est-ce que maintenant il saura gérer cette de nouvelle chance?
Lucas, un petit mot avec vous rapidement avant de vous laisser partir, mais restez bien sûr à l'écoute de France Bleu Azur sur ce match contre Dijon qui va arriver. Voilà, où faut que le gym confirme. Il y a eu une défaite, il y a eu un nul, il faut une victoire maintenant.
Pour moi, il faut pas confirmer, il faut au contraire se démarrer plutôt, parce que là, j'ai l'impression que c'est, si je le dis comme je le pense, très clairement, là, je suis extrêmement inquiet. Hein. Je me suis ennuyé sur les deux matchs. J'étais au premier match contre Reims, on n'en pouvait plus. Le match là contre Caen, c'était très difficile aussi. Donc voilà, on a l'impression que l'équipe n'était peut-être pas prête. Maintenant, il va falloir vouloir se dépêcher, mais bon, c'est sûr que si le mercato n'est pas terminé, visiblement. Il va falloir peut-être encore attendre un peu, je pense, mais d'ici, on va dire, la mi-septembre maximum, je pense que l'équipe sera en place, donc il faut être encore un peu patient.
Oui, il faut se lancer, effectivement. Merci, Lucas, de votre appel à 100% Aiglon. On va écouter, tiens, Johan Cardinal, le gardien de l'OGC Nice, parce qu'on lui a demandé voilà, son ressenti après ce match, le fait aussi qu'il soit titulaire pour la deuxième fois. Johan Cardinal nous a répondu après le nul contre Caen.
C'était très important pour moi personnellement d'apporter un plus à l'équipe aujourd'hui. J'ai pu discuter un peu avec le staff qui m'ont fait part de leur confiance et ça m'a beaucoup aidé pour le match de ce soir. Voilà, j'ai essayé de contribuer au résultat.
Et il l'a fait et ça montre aussi, William, la patte Patrick Vieira. Je disais, choix fort, on l'a dit, premier choix fort de Vieira, c'est de remettre Cardi numéro 1. Il démontre bien que c'est lui le patron, que c'est lui qui décide.
Mais de toute manière, tous les coachs font des choix. Le confort, c'est de miser sur la stabilité, la continuité. On arrive dans un club qu'on connaît pas, on garde la ligne directrice. Bon, le numéro 1 était lui, on va le garder. C'est ce qu'il souhaitait faire quand même. Parce que c'est aussi une preuve d'intelligence de faire ça, parce que vouloir arriver, débarquer et bouleverser toutes les choses qui étaient en place, c'est compliqué. On peut pas repartir de zéro. Et puis, il y avait une stabilité derrière. Ce qu'avait fait Claude Puel, ce qu'avait fait Lucien Favre, il y avait une stabilité, donc... l'intelligence prime de dire on continue là-dessus. Après voilà, il y a des choix d'hommes, il en a fait d'autres aussi dans le champ. Il a misé sur Tamézé qui était pas forcément l'année dernière un vrai titulaire. Ouais. Donc voilà, il en fait d'autres et puis pour l'instant, il faut dire aussi, il a pas tout l'effectif qu'il souhaiterait avoir à disposition.
Et oui, et on en reparlera tout à l'heure hein, notamment du mercato parce que Mario Balotelli est encore un joueur de l'OGC Nice, ben il est toujours suspendu pour l'instant, il est toujours à l'entraînement. D'ailleurs Cardi chez nos confrères de Canal Plus nous dit j'espère qu'il sera là mardi à l'entraînement. Ouais. On a besoin de lui, on en reparlera et juste pour l'anecdote et c'est pas si d'anecdote anodine que cela, Cardinal est le joueur qui aujourd'hui a le plus de cap avec le maillot de l'OGC Nice, 90 matchs dans l'effectif niçois, il n'y a pas plus, il y a Dante qui est juste derrière avec 88 ou 89, mais le joueur qui a porté le plus de fois le maillot aujourd'hui c'est Johan Cardinal.
Oui, il aime ce club, ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il a toujours affiché son amour pour ce club qui lui a donné sa chance chez les pros. Donc ça, il est reconnaissant, il aime ce club, même s'il est originaire des Bouches-du-Rhône. Oui, voilà. Pour lui, c'est un histoire d'adoption. Donc ça, on peut pas lui enlever. Et c'est quelqu'un aussi d'important dans le vestiaire. On le voit avec Mario Balotelli.
C'était Ben Arfa aussi. Il y a
avec
quelques
Ben
temps,
Arfa voilà. aussi. Voilà, c'est pas anodin. C'est quelqu'un qui met l'ambiance dans le vestiaire, donc il est important. Donc voilà.
Et on rappelle, il a re-signé 3 ans avec le Nice. Donc ouais. Voilà, preuve que le gym compte sur le gardien qu'il a formé fait. Parce qu'il est issu de la formation niçoise Cardi. Et peut-être que voilà, il sera là aussi pour l'avenir. Et on en reparlera peut-être parce que là, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais peut-être qu'un jour, Nice se remettra à recruter un gardien de but avec des ambitions différentes, notamment si le GC Nice réussit à se qualifier pour la Coupe d'Europe. 18h40 sur France Bleu Azur. C'est 100% Aiglon que vous écoutez avec William. Merci à notre confrère le Nice ce matin. Dans un instant, Laurent Barra nous rejoint. Et on parlera Mercato, à tout de suite.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice. France Bleu.
On a tous besoin d'un coup de main pour mieux gérer le quotidien. Tous les jours à 9h, les experts de France Bleu Azur vous offrent leurs conseils en direct. Notaires, avocats, spécialistes de la maison, de votre argent ou des caisses de retraite. France Bleu Azur règle vos dossiers. À suivre aussi sur francebleu.fr et sur l'appli mobile France Bleu.
France Bleu. France Bleu Azur. France Bleu Azur, 100% Aiglon. Barra, tacle.
Il nous rejoint, Laurent Barra, pour son billet d'humeur hebdomadaire. Tous les lundis, on parle football avec Laurent Barra, humoriste niçois. Et tiens, et grâce à lui, on va commencer à parler du mercato. Bonsoir Laurent.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors hier soir, j'ai joué mon spectacle dans un charmant petit village à une trentaine de bornes de Strasbourg nommé Gaspolstein. Ça, ben, j'ai réussi à le dire. Voilà. Évidemment, les gens ont adoré mon spectacle, hein, mais à la fin, au moment des dédicaces, quelle ne fut pas ma grande surprise de constater que la majorité des questions des gens portaient sur Mario Balotelli. Alors, il va rester Mario Balotelli, hein? Vous allez le vendre à Marseille? Non mais ai-je autant de cheveux blancs que cela pour que les gens me confondent avec Jean-Pierre Hiver? Je ne vends rien ni personne. Enfin si, je vends une PSP avec 6 jeux. Alors la PSP est une console de jeux portable, je précise, hein, d'autant que les auditeurs de France Bleu Azur ne sont peut-être pas tous des teenagers. Alors, une bonne fois pour toutes, je n'ai aucune information sur l'avenir de Pippo Mario Balotelli et je m'en tape royalement. Alors autant je pouvais avoir un peu de sympathie pour Atem Ben Arfa, autant pour Mario Balotelli, je m'en fous royalement, j'en ai rien à faire. Il méprise le club, la ville, les supporters, les dirigeants. La chanteuse Rita Mitsuko chantait « Les histoires d'amour finissent mal en général » et qu'elle avait raison. Hein. Et celle qui unissait Mario Balotelli à l'OGC Nice ne déroge pas à la règle. Deux saisons d'une passion magnifique à se chanter des chansons, à se dire que l'on s'aime, tout cela pour se faire draguer par une cagole marseillaise et peut-être trahir les supporters en allant chez l'ennemi. Le football, à bien des égards, a beaucoup de points communs avec l'amour. À la différence que l'amour du maillot ne dure jamais ou très rarement 3 ans. Et remarquez que dans une relation amoureuse, eh bien, c'est toujours la copine moche de ta meuf qui lui met le doute dans la tête. Eh bien, dans le cas de Mario Balotelli, c'est pareil. Sauf que la copine moche, c'est son agent, Mino Raiola. Vous voyez que les histoires d'amour finissent mal. En général. Bonne soirée.
Merci Laurent Barra, voilà, il nous a planté le décor, on va pouvoir parler mercato.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Allez, on va parler du mercato, on vous attend, 04 93 82 03 04, également sur la page Facebook de France Bleu Azur. Tiens, je donne quelques messages, notamment sur l'un de nos débats précédents. Etienne nous dit, je comprends les critiques, mais le mercato n'est pas fini, la mayonnaise n'a pas encore pris, patience, l'équipe est encore très jeune. Ça parlait aussi de Johan Cardinal, Guillaume nous dit, pour moi, Cardinal, ça reste quand même assez limite, je préfère Walter Benitez qui met plus de présence dans sa cage. Gérard, lui, n'est pas d'accord avec nous non plus sur le gardien. Bon, bah voilà, c'est votre avis, vous avez le droit de l'avoir. En tout cas, on vous attend, 04 93 82 03 04.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Alors, on le disait, le mercato, William, on rappelle, hein, c'est jusqu'au 31 août, et il y a beaucoup de questions, mais Virginie notamment nous demande, John également, où en est le dossier Mario Balotelli. On rappelle d'abord que Mario est encore sous contrat à l'OGC Nice, encore un an de contrat, qu'il est suspendu pour l'instant. S'il reste à Nice, il pourrait éventuellement rejouer avec le déplacement à Lyon. Nice Matin s'en est fait l'écho la semaine dernière, les confrères de l'équipe également. On voit bien qu'il y a des soucis, on s'entend pas entre dirigeants niçois et marseillais en tout cas.
Non, il y a des petites tensions entre les deux clans. Un dossier dans l'équipe a notamment bien expliqué un peu tous les dossiers précédents. Ouais. Mais en l'occurrence, sur le cas Balotelli, c'est très simple. On l'a rappelé précédemment dans Nice Matin, l'accord entre Jean-Pierre River, Julien Fournier, Mario Balotelli et Mino Raiola, c'était que si Nice n'était pas européen, Mario aurait un bon de sortie. Et Nice s'est engagé à ne demander que le montant de sa dernière année de contrat.
Bon, en gros, 4,5 millions, 5 millions.
Voilà, en gros, 4,5 millions. En gros. Donc du coup, Marseille, qui était au courant du prix dès le début, a commencé à chipoter là-dessus. Il n'a jamais voulu mettre ce montant-là dans la transaction. Il y a eu deux offres. La plus haute à 2,5 millions plus Cabella avec une option d'achat aux alentours de 7,8. Donc voilà. Marseille ne veut pas mettre les 4,5 millions. Ça traîne. Lui, Mario Balotelli, il aimerait aller à l'OM puisqu'il y a la Coupe d'Europe. Au club, on dit que en interne, si il y avait eu la Coupe d'Europe, Mario serait resté sans souci. Mais à Nice, sans Coupe d'Europe, c'est pas sa priorité. Alors s'il doit rester, dans quel état d'esprit sera-t-il ? Ça, c'est aussi une autre question. Donc voilà, mais je pense que le fait qu'il soit disponible pour la 4e journée va faire que c'est cette semaine où tout devrait se décanter pour que le prochain club où jouera Mario Balotelli puisse préparer sereinement la 4e rencontre avec lui.
Ça peut être que Marseille, on voit difficilement le mercato anglais terminé, le mercato italien aussi.
Ah non, mais ça c'est une certitude. Ça
Marseille
sera
ou Nice quoi.
Marseille ou Nice. Voilà.
Stéphane nous appelle depuis Nice justement pour nous parler du marché des transferts. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
On vous écoute.
Bonsoir Stéphane.
Bon, déjà, je suis un fidèle auditeur de votre émission, donc
merci.
Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Moi, je voulais vous appeler concernant le mercato, mais le mercato de cette année, mais en général. Monsieur River, bon, je le remercie au nom de tous les Niçois de ce qu'il fait pour Nice depuis des années, mais ça fait des années qu'il parle de construction. Quand on est arrivé aux portes de la... Donc l'an dernier, aux portes du tour préliminaire de Ligue des Champions, on a perdu des joueurs importants qu'on aurait pu garder, comme Belanda, comme qui voulait rester, comme Essérik. Et cette année, je vois encore que cette année, malgré les ventes de joueurs importants, on ne recrute pas grand monde, à part Mizian, qui est un futur très grand, je pense. Mais je pense que l'équipe, là, on est encore reparti pour reconstruire. Et chaque année, j'ai l'impression qu'on vend encore, qu'on vend. Mais que l'équipe, on est en totale reconstruction. Autre question que je me pose aussi, on a Mika Le Bihan, qui est un bon joueur, qui a été beaucoup blessé. Il fait la préparation. Et là, il n'est pas dans l'effectif pour le début du championnat. Il y a des choses qui sont... Là, je parle, il y a beaucoup de supporters que je côtoie qui ont le même... J'appelle un peu
même
peu
avis,
beaucoup de monde qui se posent ces questions que je me pose moi ce soir.
Alors, on va essayer de vous répondre, Stéphane, restez avec nous. Bon, le cas Balotelli, on en a déjà parlé précédemment. Alors après, c'est vrai que l'OGC Nice se construit. Il y a le projet du président River qui repart dans une nouvelle page parce qu'il a hésité à partir. Hein, le président du gym, il nous l'a dit d'ailleurs à ce micro en fin de saison dernière. Oui, et Cédric Belanda, Adèle, je crois, notre première dire, nous disait on a mangé du caviar pendant 2-3 ans. C'est sûr que c'est difficile pour les supporters, William, de voir un peu leur club en quelque sorte reculer en arrière. C'est un peu l'impression qu'ils peuvent avoir. Mais parce que c'est le projet niçois, basé sur les jeunes, basé sur le jeu, et que Nice, pour l'instant, en tout cas financièrement, n'a pas les moyens des grosses écuries de la Ligue 1.
Mais moi, en
c'est
fait,
un peu
ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on parle de recul en arrière. Mais c'est quoi le recul en arrière? Nice a reculé de la 3e à la 7e place? C'est ça un vrai recul en arrière pour un club qui, pendant des années, a lutté pour le maintien chaque saison. Là, Nice s'est mêlé à l'Europe depuis quelques années. Cette année, il ne joue pas l'Europe. Il y a des torts de partout, ne serait-ce que dans le mercato peut-être, où il y a eu des manques, en effet, l'année dernière aussi. Mais l'OGC Nice suit une certaine logique financière. Et si Jean-Pierre Rivière et Julien Fournier, depuis 2011, ont apporté cette stabilité plutôt croissante, Nice a toujours continué de grandir. C'est que parce qu'ils avaient cette logique financière qui n'a jamais mis les caisses en danger. Mais il y a quand même eu de nouvelles recrues cette saison. L'année dernière, à 10 millions sur Alan Saint-Maximin. Cette année, c'est encore 10 millions sur Maolida. C'est des investissements qu'ils pensent qui rapporteront plus tard. Comme Danilo. Danilo aussi, c'est 7-8 millions. Et c'est un investissement aussi sur l'avenir.
Comme on a pu le voir avec Seri dernièrement, avec Pléa aussi, qui ont été achetés, pas une bouchée de pain, mais presque, et qui sont revendus énormément.
C'est cette plus-value qu'ils ont fait, même avec D'Albert. On se rappelle d'Albert, c'était un joueur à 2 millions, ils l'ont vendu 25 millions ou 29 à l'Inter. C'est une logique qu'il faut suivre pour ne pas jamais mettre les caisses du club en danger. Je pense notamment à un cas récent, Lille, qui avait acheté pour Abra. Allez, on y va. Et à la fin, si tu descendais, tu faisais comment?
Ils sont maintenus à la dernière journée.
Avec la masse salariale sur les bras, c'est compliqué.
Bon, il y a Eric qui est pessimiste sur la page Facebook, nous dit, et maintenant, ce sera de la 7e à la 11e place. Bon, sur le recul en arrière. Stéphane, restez avec nous, parce que, il y a aussi une autre question qui porte sur Youssef Attal, William, l'une des recrues de l'été, qui s'est déjà blessé, qui avait fait un très bon match contre Reims. Ça, c'est la petite tuile, parce que c'est vrai qu'il avait fait un bon match, Youssef, lui aussi, il a un sacré potentiel. On va devoir s'en passer quelques semaines.
Les ischios, je suis pas médecin. Donc on attendra un verdict vraiment du club sur la durée, mais ça doit durer aux alentours de 2-3 semaines, même 3 plutôt. Mais c'est vrai que c'est la belle promesse de la prépa. Déjà le club, quand il a été recruté, avait beaucoup d'espoir sur lui. Un joueur très talentueux, très percutant sur son côté. Et on l'a vu sur la première journée. Il apporte aussi des solutions différentes dans le système de Patrick Vieira, puisque comme c'est un latéral qui monte énormément, ça passe à 3 derrière au final avec Boscali qui repasse dans l'axe. C'est un autre schéma. Lesmelou qui est aligné côté droit, en fait, rentre dans le cœur du jeu parce que c'est Attal qui joue à droite. Donc voilà, ça apporte des choses différentes. Lui, c'est une belle promesse avec des lacunes défensives aussi. Ça fait partie du potentiel à travailler, mais Patrick Vieira saura polisser ce joli diamant.
Stéphane, merci de votre appel.
Polisser, au malheur.
C'est pas assez rattrapé. Merci Stéphane et à bientôt. 100% Aiglon se poursuit à 19h. Merci de votre fidélité, Stéphane. Juste William, parce que dans un instant on va parler du prochain match, notamment avec Rémi Chevreau, notre confrère du bien public à Dijon. Juste sur le mercato, on l'a dit, dossier délicat avec Mario Balotelli, mais les dirigeants travaillent quand même à son remplacement. On le sait, ils sont toujours un coup d'avance, les Niçois.
Ils ont toujours un coup d'avance, sauf quand ça fuite dans la presse. Donc le dossier, par exemple, Simone Zaza, qui est sorti assez tôt en Espagne. Bon, apparemment, c'était concret. Voilà, Nice s'est intéressé à ce dossier-là. Mais dès que ça fuite, après, il y a une concurrence qui se mêle. Et l'OGC Nice, quand même, sans Coupe d'Europe, et par rapport aux autres concurrents en Ligue 1, par exemple l'OM, a beaucoup plus d'attrait pour un joueur. Donc si Zaza était venu en France, il serait plutôt allé à l'OM.
On parle d'arrivée, de départ aussi peut-être, on le dit, on le répète semaine après semaine depuis un mois, mais Arnaud Souquet, le pauvre, est à la cave. Voilà, on le rappelle, hein, un agent sans doute qui a été un petit peu trop gourmand, voilà. et les dirigeants niçois n'ont pas trop apprécié, parce qu'il est presque même troisième voire quatrième latéral droit dans la hiérarchie. Il peut partir, Arnaud Souquet. On pense à Rémi Walter aussi qui a été prêté, qui était dans le groupe là parce qu'il y avait des manques, mais il y a quand même... Alors, pas un effectif pléthorique, mais il y a quelques joueurs qui mériteraient au moins d'être vendus ou alors d'être prêtés.
Ah oui, clairement. Arnaud Souquet, c'est vrai que c'est une situation qui est assez compliquée pour lui. Il y a eu une période où tout allait bien. Il y a eu des conséquences.
Ça va très vite dans le football.
Voilà, c'est exactement ça. Faut toujours s'en souvenir. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc, Arnaud Souquet, voilà, il a un bon de sortie, mais il a aussi un prix. L'OGC Nice lui ouvre la porte, mais pas à n'importe quel prix. Donc il y a eu des contacts avec certains clubs. Pour l'instant, aucune offre concrète sur son cas, mais ça pourrait se décanter comme toujours dans les dernières heures du mercato.
Il reste 11 jours et c'est vrai que dernièrement, en tout cas avec l'OGC Nice, on a nos magnétos enregistreurs, William, et toi ton clavier qui s'active beaucoup dans les dernières heures du mercato. D'ailleurs, j'ai envie de mettre une petite pièce sur un départ de Mario Balotelli le 31 août à 23h57. Allez, pourquoi pas. Allez, 10h53 sur France Bleu Azur, une courte pause et on se lance vers la suite du championnat. Troisième journée, la réception de Dijon samedi à l'Allianz Riviera, tout de suite.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
France Bleu. Pour éviter les bouchons, les radars et faire la route de bonne humeur, écoutez France Bleu Azur, boulevard du Mercantour ou sur la prom sur le 103.8. France Bleu Azur vous donne toutes les infos routes et transports en commun en temps réel.
On est bien ensemble.
Toute la journée, gagnez vos sorties, vos loisirs en famille en écoutant France Bleu Azur.
France Bleu est la radio partenaire de ce grand concert événement.
Du matin au soir, tous les jours, votre radio sur la Côte d'Azur vous offre vos places de concert, de spectacle, vos entrées pour tous les événements, vos tickets de ciné.
Et d'ailleurs, ces deux places, je les ai là pour vous, je vous les offre.
Oh, c'est trop, trop bien. Merci, 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 merci.
Profitez de votre région avec France Bleu Azur.
France Bleu Azur. France Bleu.
18h54 sur France Bleu Azur. Avant d'accueillir Rémi Echevreau, notre confrère du Bien Public, le quotidien local de Dijon en Bourgogne. La question pour remporter le ballon de foot France Bleu Azur. On vous gâte cet été. Très beau ballon blanc et bleu aux couleurs de votre radio préférée. Elle concerne le buteur niçois à Caen, c'est Ignatius Ganago. Mais contre quelle équipe a-t-il marqué son premier but en Ligue 1? C'était la saison dernière. Vous avez la réponse 04 93 82 03 04. C'est pas compliqué. Il a marqué deux buts en Ligue 1 de toute façon. Le deuxième, c'était ce week-end à Caen. Mais le premier, contre quelle équipe? C'était à l'Allianz Riviera. Je vous en dis pas plus, sinon je vais vous donner la réponse. Ah oui, 04 93 82 03 04. Rémi Chevreau est avec nous. Salut Rémi.
Salut JB. Salut Will.
Salut Rémi.
Confrère du Bien Public, tu suis le DFCO Dijon, Rémi, qui est en pleine bourre. Deux matchs, deux victoires.
Ouais, c'était jamais arrivé en Ligue 1 encore. Au contraire, c'était à chaque fois des défaites. Mais là, ça part plutôt bien pour la bande à Olivier Dalloglio. Donc, comme il le dit, les points pris en début de saison, ils seront plus à prendre plus tard.
Et important parce que c'est des adversaires, on peut dire, un peu directs pour Dijon, Montpellier, Nantes, voilà. Ils se sont pas ratés, les Bourguignons.
Non, ils ne sont pas ratés. Après, adversaire direct, je sais pas où tu situes Nantes, où tu situes Montpellier. Déjà, le DFCO, l'objectif premier sera le maintien. Hein. Après, en essayant de faire l'avoir le plus vite possible pour ensuite essayer de faire mieux que l'année dernière. C'est le discours officiel en tout cas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison? Il y a eu un peu de changement au DFCO? Oui, non, nous on sait que Cédric Varro, ancien joueur de l'OGC Nice, capitaine du DFCO, l'un des plus anciens avec Benjamin Nivet, c'est deux anciens qui sont partis là. Alors Benjamin Nivet joue encore au foot en Ligue 2. Cédric Varro aussi, mais à côté de chez nous, à Saint-Jean-Beaulieu, Villefranche, en division amateur. Voilà, vous n'avez plus votre capitaine, il y a eu des changements?
Il y a eu quelques changements, mais pas tant que ça au final. Tu as eu des changements marquants comme ça, comme Cédric Barreau, parce que c'était le capitaine, il était là depuis la première année en Ligue 1. Il y a Baptiste René qui est parti aussi, le gardien historique du club.
Parti à Toulouse. Hein.
Ouais, exactement. Et t'as aussi un adjoint qui est parti, l'entraîneur adjoint d'Olivier Dalloglio, qui est parti du côté de Marseille, qui était là au club depuis 25-30 ans. C'était vraiment un personnage de Dijon. Mais après, pas tant de départ que ça. Ce week-end, par exemple, sur le match à la victoire contre Nantes, il y avait que le gardien Roy Larsson qui était aligné en tant que recrue. Sinon, les 10 joueurs de champ étaient déjà là l'année dernière. Donc ça explique peut-être aussi pour ça ce bon démarrage. Il y a une certaine cohésion, des automatismes qui existent déjà du côté de Dijon.
Il y a aussi une star entre guillemets au DFCO, c'est Johan Gourcuff, ancien grand espoir du football français, l'ancien Lyonnais, l'ancien Rennais, voilà, qui a très peu joué je crois. Hein. Il est rentré en cours de jeu à chaque fois sur les deux rencontres. On en rigole un petit peu, mais comment il va? Il sait toujours jouer au foot, il tient debout.
Écoute, pour le moment, ça a l'air d'aller. Il le prépare. Il arrive en cours de préparation, hein, donc il le prépare doucement. Il a pas 90 minutes dans les jambes. Il est rentré à la 87e contre Montpellier, à la 83e contre Nantes. Donc il grappille un petit peu de temps de jeu. Mais je pense que si ça marche, c'est vraiment une belle opération parce qu'il est pas venu là pour l'argent, c'est clair. Il est venu là pour le jeu, pour le système mis en place par Olivier Dalloglio, par la philosophie de ce coach, qui est un amoureux du ballon rond comme lui. Donc ça peut être que du gagnant-gagnant.
Que pensent les Dijonnais de ce match contre Nice, Rémi? Voilà, les Niçois qui, eux aussi, ont été pas mal, en tout cas, peut-être plus que Dijon d'ailleurs, ont été bouleversés de moitié en termes d'effectifs, nouvel entraîneur, nouveau staff, etc. Il n'y a plus la Coupe d'Europe, Nice est encore en rodage. Qu'est-ce qu'on se dit à Dijon? C'est le bon moment de prendre les aiglons, là?
Ouais, j'ai l'impression que c'est ce qui se dit un petit peu, parce que un point en deux matchs, du côté de Dijon, ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça marche bien. Donc, c'est, effectivement, pour eux, ça peut être le bon moment. Après, une équipe qui est un peu blessée, faut toujours s'en méfier.
William, un petit mot sur ce match contre Dijon. C'est samedi à l'Allianz Riviera. Il faut gagner pour le gym. Il faut vraiment lancer la saison.
Oui, il faut gagner, parce que quand on regardait le calendrier et qu'on voyait les trois premières journées, on se disait, bah, Nice a l'occasion de prendre 7 points minimum sur 9. C'était tout. Ce genre d'estimation, alors qu'en fait voilà, ce qu'a dit Rémi tout à l'heure qui est très important avec l'équipe de Dijon, je pense moi, c'est les 10 joueurs de champ qui étaient déjà là l'année dernière. C'est les automatismes, ça apporte automatiquement une fluidité beaucoup plus rapide dans le jeu. Et voilà, l'entraîneur, les joueurs savent très bien ce qu'il leur demande, et donc ça va plus vite. Et il y a des équipes qui sont pas prêtes en face, et du coup ils le payent. On le voit avec l'OGC Nice qui est pas encore rodé. Alors ce sera un match compliqué, peut-être que ça sera même plus compliqué que le déplacement à Lyon la semaine suivante.
Merci Rémi Chevreau, confrère du bien public, d'avoir été avec nous. Rémi, et on t'accueille avec plaisir à l'Allianz Riviera, chez toi, parce que tu es niçois. Donc au stade samedi. À samedi Rémi.
Salut Rémi, ciao.
Nathalie, vous êtes là?
Oui.
Vous avez 10 secondes pour mener la bonne réponse. Contre qui Ignatius Ganago a marqué son premier but en Ligue 1 la semaine passée?
Contre l'AS Monaco.
Eh oui, c'était le derby. Bravo Nathalie. On vous embrasse. Le ballon de foot est pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur France Bleu Azur. Restez en ligne. Gaël vous explique comment récupérer votre super ballon de foot. Il est beau, hein, William?
Il me rappelle un certain
club.
Ouais,
bleu et blanc, c'est les couleurs. Ok, pardon. L'Olympique de l'on dira pas. Merci William d'avoir
merci
été
à toi,
avec nous. William Inversé, Nice Matin. On parle du gym demain dans Nice Matin?
Non, pas demain.
Ah, repos.
Okay.
On attendra la semaine. Je vous retrouve en tout cas, moi, avec plaisir, samedi soir à Lyon de Riviera avec Patrice Alberganti. Il sera de retour, le Patrice.
Ah là là,
en France Bleu Azur. Il sera là, coup d'envoi 20h de ce Nice-Dijon avant-match dès 19h45 sur France Bleu Azur. Et notez le dédicace Place du Pain de Youssef Attal et Miziane Maoulida ce mercredi à 16h. Le journal à 19h sur France Bleu Azur.